Je suis spécialement heureux d'être là ce soir. Je suis spécialement heureux d'être là ce soir, cher Léon Ashkenazi, et de participer à la célébration de votre pensée et de votre parole. Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de mêler aux hommages que vous sont rendus quelques mots d'amitié et de vœux.
Il en est parmi vous qui n'ont pas encore eu leur dessert, et de ce fait, il ne me viendrait pas à l'idée de faire un discours long. Je demande pardon à ceux qui connaissent l'histoire de ce curé qui va monter en chair et le bedeau s'aperçoit qu'il a une balafre sur la joue. Il dit, mon père, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit, ben voilà, ce matin, en pensant à mon sermon et en me rasant, je me suis coupé la joue. Il monte, il fait son sermon, et quand il redescend, le bébé lui dit, mon père, la prochaine fois, pensez à votre joue et coupez le sermon. Je ne serai donc pas long. Sans doute, d'avoir participé au balbutiement et aux errances du QH dans les premières années, me vaut le privilège d'être ce soir ici à cette présidence et de pouvoir évoquer quelques souvenirs. Puis-je demander que le service s'arrête parce que c'est extrêmement pénible de parler dans ce cas-là. Quel chemin parcouru, comme le disait M. Kelman, quel chemin parcouru en 25 ans, grâce d'abord à André Neher, puis à René Sira, grâce aussi au Fonds social juif unifié, et en particulier à Adam Loss, au moment où ça n'allait pas de soi, avait fait du QEJ une des priorités du Fonds social. Mais grâce, bien entendu, à Manitou, car ce fut une rencontre providentielle, miraculeuse, entre une certaine forme d'enseignement et une attente. Parmi les nombreux souvenirs de l'époque, l'un d'entre eux me revient en mémoire. Un soir de printemps, Manitou allait faire son cours rue de l'Éperon. J'arrive un petit peu en retard avec ma femme. La salle bondée, le vestibule bourré, impossible d'arriver dans le petit jardinet qui était devant, et des étudiants juchés sur la fenêtre, l'oreille collée à la vitre, tentaient d'écouter ce que disait Manitou. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui faisait grimper aux fenêtres ces jeunes gens? Alors, je ne dirai pas tout ce que je pense des particularités de l'enseignement de Manitou, mais je voudrais insister très brièvement sur trois particularités. La première, c'est que c'était un enseignement ouvert. Il y a un mois, à Jérusalem, lors d'un colloque, le grand rabbin de Grande-Bretagne, M. Yakubovitch, s'interrogeait et il demandait pourquoi n'y a-t-il pas, apparemment, de notre temps, de Gedolé Torah? Et il se demandait, est-ce que la réponse ne serait pas trouvée dans le fait que les grands maîtres qui existent enseignent enfermés dans les yeshivot et non pas tournés vers l'extérieur? Eh bien, chez Manitou, rien de tel que tous ceux qui ont faim viennent et mangent, que tous ceux qui ont soif viennent et boivent. La deuxième particularité de l'enseignement de Manitou, et c'est curieux parce que Claude Kelman l'a rappelé tout à l'heure, c'est bien que c'est un enseignement non conformiste, je dirais, pas de son temps. Il me souvient, quand j'étais président de la réunion des étudiants juifs de France et de la réunion des étudiants de Paris, mon cher collègue, je salue, puisque vous êtes le président actuel, c'était immédiatement après la guerre, on faisait dire des conférenciers sur le judaïsme et on attendait une sorte de justification du judaïsme par la modernité, c'est-à-dire on trouvait, en ce temps où l'existentialisme était triomphant, que la Torah, c'était beaucoup plus existentiel que Jean-Paul Sartre. Le marxisme, il est dans la Torah. Le structuralisme, rien de plus juif. Et en 1968, qui s'en souvient, on tenait à montrer que nous étions les meilleurs des révolutionnaires. Eh bien, chez Manitou, rien de tel, je pense à ce vers de Yehuda Halevi, « Avdei Hazman, Avdei Avadim Hein ». Les esclaves du temps de la mode sont les esclaves d'esclaves. Et enfin, je donnerai la dernière particularité de l'enseignement de Manitou, c'est que c'est un enseignement juif, mais en langue juive. C'est peut-être une perception un peu personnelle. Je veux dire par là que je suis d'une famille, d'un milieu, où il était inconcevable d'étudier la Torah autrement qu'en yiddish. Quand le vendredi soir, à table, les enfants se mettaient à parler un peu en français, Shach, c'est papa, Shach, je dis Shabbos, Shabbat, on ne parle pas goyish, n'est-ce pas? Et par la suite, même élève de l'école Maïmonide, il me souvient que j'ai toujours perçu une certaine inadéquation entre le français et l'étude de la Gemara, par exemple. Eh bien, par la suite, avec Manitou, tout a changé, car tout en enseignant en français, j'ai retrouvé la même saveur, la même chaleur, la même adéquation, la même identification au texte de la Torah. Autrement dit, il enseignait en français, et il enseigne en français, mais ça n'est pas goyish. Mais je ne suis pas là, j'ai promis d'être bref, pour parler uniquement de l'enseignement de Manitou. Je voulais, mon cher Manitou, te dire simplement, t'exprimer ma gratitude personnelle. Tu as par beaucoup de côtés éclairé part de mon existence, je suis ton élève, tu es mon maître et tu seras toujours pour moi Rabbi, Aloufi ou Biudaï.
Monsieur le Consul Général, cher Manitou, cher Bambi, cher Yaël, cher Président, cher Adi, Moreb Rabotai, chers amis. Tout le monde connaît l'enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva, ve'avta le'reacha kamocha, zeklal gadol b'Torah. Rabbi Akiva a enseigné, c'est un chant que tout le monde chante et connaît. Le principe fondamental de la Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais dans le texte, il est un rabbin, Ben Azai, qui dit non, il y a un verset qui est plus important que celui-là. Et ce verset, c'est « Zé Sefer Toldot Ha'adam ». Voici le livre de la généalogie d'Adam. Et enfin, un troisième maître dit « Non, le verset le plus important de la Torah, c'est celui que nous avons lu hier dans la lecture sabbatique, « Et akevesa echad ta'ase baboker » Tu offriras l'agneau, le mouton, du sacrifice le matin et également chaque jour celui du soir. Alors, on peut penser que nous voilà descendus à un niveau bien terre à terre entre Ve'afra et Ve'afra Kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en passant par le livre de la généalogie d'Adam. Laissez faire de l'autre à Adam, et puis quelque chose qui apparaît comme étant de moindre importance, c'est à Kevesaïchat, à Sebaboker, le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, chaque jour, comme une litanie, comme une routine, comme quelque chose qui revient constamment, presque comme ce que l'on fait sans même avoir à y penser. Mais en fait, nos Chachamim nous disent aussi que Elou ve Elou divrei Elohim Chayim. Que les enseignements des maîtres constituent une part de la vérité éternelle et qu'il n'y a pas de discussion entre l'opinion de Rabbi Akiva, l'opinion de Ben Azaï et l'opinion du Ikade Amré, du troisième rabbin. En fait, il y a là, effectivement, complémentarité, ou complémentarité indispensable. Tout d'abord, et ta kevesaïcha ta'ase baboker, et ta kevesaïcheni ta'ase ben arbaïm, ce service divin représente l'ensemble des mitzvot ben adam lamakom. Toutes les lois de la Torah que nous devons observer et qui régissent l'attitude du juif par rapport à son Dieu créateur. Il y a un certain nombre de lois que nous avons, nous, juifs, le privilège de devoir et de pouvoir observer. Et puis il y a également les mitzvot ben adam lachavero. Ve'ahta le've'acha kamocha, les mitzvot entre l'homme et son prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et chacun d'entre nous sait que ça n'est pas toujours facile. Et puis d'autre part, les mitzvot ben adam la'adam. Ze sefer toldot ha'adam. Voici le livre de la généalogie. Ce qui est important pour nous, d'avoir toujours présent à l'esprit, c'est que l'homme, le descendant d'Adam, parce qu'il porte en lui l'image de Dieu, est extrêmement précieux. Et Ben Azaï insiste sur le fait que le verset le plus important est à première vue un verset banal. Voici le livre de la descendance d'Adam. Pourquoi ai-je choisi ce texte pour dire quelques mots en hommage à Manitou ce soir? C'est que je crois que ces textes résument parfaitement toute cette grande aventure du QEJ il y a 25 ans. Et par coïncidence, mais y a-t-il, cher Manitou, des coïncidences? Il se trouve que cette semaine, nous avons célébré trois événements majeurs à Paris. Tout d'abord, le congrès des rabbins. Et un congrès des rabbins qui n'est pas un congrès ordinaire, qui est comme celui auquel nous avions l'habitude d'assister. L'année dernière, il y a eu rupture. J'avais décidé que pour marquer la solidarité du corps rabbinique français avec Israël, pour la première fois dans l'histoire du rabbinat français, ce congrès se tiendrait à Jérusalem d'abord, et à Kfar Maïmon, à la Yeshiva, près de Netivot, ensuite. Et cette année, le congrès rabbinique de lundi et mardi a été très important, mais nous avons eu le sentiment, tous les rabbins, et nous étions 150, tous les rabbins qui ont participé à ce congrès ont eu le sentiment d'un télescopage de deux générations. Jusqu'en 1980, le grand rabbin Kaplan, Yisachar Betov, le grand rabbin Naouri, toute cette génération de très grands maîtres dirigeaient le rabbinat et par conséquent le judaïsme français. Et puis le grand rabbin Kaplan, qui nous a fait l'honneur d'assister à nos travaux, et le grand rabbin Naouri, qui lui aussi a assisté à nos travaux, et nous nous souvenons de la participation, il y a une dizaine d'années, du grand rabbin David Ashkenazi, et nous avons commencé nos travaux par une Ashkaba à la mémoire de ce grand maître disparu. La génération maintenant des maîtres est celle qui nous fait bénéficier de son expérience, de ses conseils, mais le grand rabbin Kaplan est intervenu simplement pour nous donner son sentiment sur tel ou tel point lorsque nous l'avions sollicité. Il y avait donc une deuxième génération qui tout naturellement aurait dû prendre la relève, la génération des 60 ans. Et cette génération-là était absente, soit physiquement absente, soit spirituellement absente, n'est pas intervenue. Et les rabbins, un peu contestataires d'il y a 3 ou 4 ans, sont devenus, par la force des choses, les doyens du corps rabbinique. Et nous avons senti, et c'est tout à fait normal, que les jeunes rabbins commençaient à trouver que nous étions déjà bien vieux et tout à fait dépassés. Congrès rabbinique, d'une part, et nous avons marqué ce congrès par un concert liturgique à la synagogue de la rue Buffo, et je crois que ceux qui y ont participé, ceux qui y ont assisté, ont retenu une leçon, tout d'abord, de la grande richesse de la liturgie juive et du grand rassemblement que constitue la communauté juive de Paris. Et puis le deuxième événement, c'est le 25e anniversaire de la création de la première chaire d'hébreu moderne en France, puisque c'est début février 1959 que le général de Gaulle avait signé le décret créant une chaire d'hébreu moderne à Paris à l'Institut des langues orientales. Et entre février 1959 et février 1984, plus de 10 000 étudiants ont suivi les cours de l'Institut des langues orientales. 10 000 étudiants, c'est tout de même un chiffre assez important et qui mérite qu'on y réfléchisse. Et puis, troisièmement, la rencontre de ce soir qui marque le 25e anniversaire de la création du QEJ et qui est une soirée d'hommage à Manitou. Et nous avions effectivement au début de l'aventure du QEJ, et on a rappelé quels étaient les pères fondateurs, nous avions là aussi une rencontre triple. Un professeur d'université, en la personne de notre ami André Néer, qui est présent parmi nous par la pensée ce soir. D'autre part, un maître incontesté dès l'époque, et par conséquent ce soir. Et puis un rabbin qui était à l'époque, oserais-je dire, en délicatesse avec le pouvoir constitué. Et à trois, nous avons essayé de remplir un certain espace qui nous apparaissait comme devant être rempli, répondre à une certaine demande, même informulée, de la part de la jeunesse d'il y a 25 ans. Alors, lorsque l'on regarde un quart de siècle avec tout ce qui s'est passé durant ces 25 ans, avec la rupture qu'a représenté l'année 1967, puis l'année 1968, on se dit que le QEJ a une très vieille histoire, seulement 25 ans, mais très vieille tout de même, parce qu'elle est reliée à une très longue préhistoire. Alors, comment était constitué le programme du QEJ? Eh bien, lui aussi était triple. Il y avait une partie qui enseignait les mitzvot Ben Adam Lamakom. Il y avait toute une partie qui voulait réhabiliter les études juives de manière authentique, et tous les orateurs qui m'ont précédé ont justement insisté sur cet aspect des choses. Il y avait une reformulation, il y avait un enseignement qui était donné à la manière dont les étudiants voulaient que cet enseignement soit donné, c'est-à-dire qui répondait à leur attente. Il y avait aussi toute la partie à laquelle Manitou et moi nous étions particulièrement attentifs, qui n'était pas notre spécialité, toute la partie qui était l'ouverture vers autrui, vers l'homme en tant qu'homme. Et je crois que Zeh Sefer Toldot HaAdam, c'est effectivement un verset très important et nous l'avions ressenti comme tel. Et puis, il y avait également une partie qui était une hébraïsation de l'enseignement. Et je crois que là, modestement, j'ai pu apporter ma contribution. Il s'agissait effectivement de donner un enseignement dans une langue juive, bien sûr, mais il s'agissait aussi de donner aux étudiants qui voulaient pousser plus loin leurs études la clé indispensable qui leur ouvrait l'accès au texte. Et cette grande proximité a été justement la juxtaposition entre l'enseignement de pensée juive, l'enseignement de langue et de littérature hébraïque, qui était une partie importante du programme, moins importante que les cours de pensée juive, mais tout de même importante, et les activités d'histoire, de sociologie et d'ouverture dans différents séminaires tout à fait spécialisés. Alors, je crois que l'expérience du QEJ a suscité l'intérêt car nous avons participé, Manitou et moi, à une réunion importante à Jérusalem où un certain nombre de responsables de la Memorial Foundation nous ont demandé la manière dont nous concevions l'organisation du QEJ car ils voulaient organiser des centres universitaires d'études juives en Amérique du Nord et en Amérique du Sud bâtis sur le même modèle. Ce projet, la réunion avait lieu, sauf erreur, quelques mois avant la guerre des six jours, et la guerre des six jours a donc interrompu la suite qui devait être donnée à ce projet. En conclusion, je voudrais souhaiter, d'une part, à Manitou de continuer à développer son enseignement d'Agdil Torah ou Hadira, et je voudrais appeler de mes voeux une nouvelle génération. Ce que j'ai ressenti au congrès rabbinique est très vrai, c'est tout à fait normal, et il est temps, grand temps, que des jeunes, qui sont nos cadets d'un quart de siècle, viennent prendre la place, fût-ce au prix d'une contestation que non seulement nous acceptons, mais que j'appelle de mes voeux, de manière à reformuler l'enseignement éternel de la Torah à l'intention de la génération montante, une génération constituée par une jeunesse juive absolument magnifique, qui a soif de connaître la vraie parole de Dieu. Alors, soyons nombreux pour multiplier les enseignements du Centre universitaire d'études juives à l'image de ce que Manitou a donné à la communauté juive de France.
Entre Manitou et moi-même, route d'amitié confiante, de coopération efficace, de convergence entre la pensée et dans l'action, en France d'abord, puis en Israël. Deux événements ont marqué le début de cette longue route, aux sources, à la racine, entre 1944 et 1948. Deux événements inscrits dans l'histoire en lettres gigantesques, la Shoah et l'État d'Israël. Nous étions alors suspendus entre deux mondes, le monde réel de l'abîme d'un lendemain de catastrophe et le monde rêvé de l'attention vers les cimes messianiques. Oui, il y a 40 ans, nous avions été ramenés 18 siècles en arrière. Nous avions été resitués dans l'intervalle historique, séparant ou reliant selon la perspective, le lendemain de la chute du Temple en l'an 70, de la tentative de Bar Korba pour recréer un État juif indépendant en l'an 135. Nous étions acculés au choix entre la déchirure et la tension, entre la chute dans l'abîme ou son dépassement dans l'espérance. Il nous fallait alors des hommes prêts à réinventer et capables d'assumer les gestes qui interdisent à l'histoire de s'enquiloser, qui l'obligent à jeter le pont sur l'abîme et à se lancer vers des nouveaux sommets. Ces hommes capables d'assumer le défi de l'histoire par une pensée et par une action exprimée en majuscule, aussi contraignante que celle de l'histoire. De tels hommes, qui avaient été jadis, dans leurs différences apparemment inconciliables, Rabbi Yohanan ben Zakkai et Rabbi Akiba, l'un créant une école, l'autre courant à la rencontre du Messie. Manitou a été l'un de ces hommes. Plus encore, Manitou a montré que les gestes de Yohanan ben Zakkai et de Rabbi Akiba, s'ils étaient antithétiques, n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre, mais complémentaires. Aux sources essentielles de sa pensée et de son action, Manitou a concilié en apparence ce qui en apparence était inconciliable. Comme Rabbi Yohanan ben Zakkai, Manitou a dit quatre mots seulement. « Ted li orse et talmida »« Donne-moi Orse et ses élèves » Et ces quatre mots, entendu et accepté par son chef pays, Castor et par Edmond Fleg, ont arraché au désespoir la jeunesse juive de France. Ces quatre mots ont suffi pour construire le pont sur lequel la jeunesse juive de France a franchi la cuve. D'Orsay a émané la Torah du Maharal, du Shela, du Mekoubalim, recueillie par Manitou chez son père, Zecher Tzadik Levracha, chez ses maîtres du monde séparat d'Afrique du Nord, chez son maître du monde ashkénaz, Jacob Gordon. Le Maharal de Prague, dont vous avez justement frustré jusque-là un nationalisme, un rationalisme étroit et aveugle. Le Maharal, dont le nom est aujourd'hui cité parmi les philosophes, avec un naturel aussi allant de soi que celui de Spinoza ou de Bergson, et qui pourtant, avant Manitou était inconnu, n'était qu'un mythe. Oui, le Maharal de Prague, c'est Manitou qui nous l'a donné. Aux croyants aussi, et aux laïcs, aux juifs au psaume, et aussi à l'élite universitaire en France, Orsay, Union des étudiants juifs, CJM, QEJ, et aussi en Israël, Mayanot, QEJ, Tekoa, Centre Yahir. Car c'est essentiellement grâce au Maharal que Manitou a su créer une mémoire, un langage accueillant tous les juifs, et aussi tant de non-juifs, dans lequel, cercle stimulant d'une seule et même identité, celle de Rabbi Akiva précisément. Comme Rabbi Akiva, Manitou dans le sillage du Maharal et du Shela, puis de son maître de Jérusalem, Ratzvi Yehuda Kouk, Zichrono Livracha, Manitou nous a appris le devoir d'assumer le risque de la Géoula, de la rédemption d'Israël jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est d'abord en arrachant la galoute à sa gola, à sa diaspora, par le saut rédempteur de l'Aliya. Jusqu'au bout, c'est aussi jusqu'au Kiddush Hashem. En écrivant ces lignes à Jérusalem, je ressens le besoin d'évoquer, en évoquant Manitou, son élève et gendre Eli, Zecher Kedoshim Livracha. Dans la cohorte des disciples de Manitou, son nom symbolise ce que Manitou a enseigné en disciple de Rabbi Akiva, et qu'il pratique devant nos yeux chaque jour à Jérusalem, que ce soit dans la sérénité de votre shalom ou la tension tragique de nos guerres. Investir en l'aventure de Médinat Israël, en l'ontologie de Ham Israël, en la réalité physique d'Eretz Israël. Investir en l'ensemble du projet pour lequel le juif a été appelé à se jeter dans l'histoire comme Abraham dans la fournaise ardente, du projet pour lequel le juif a été appelé à se jeter au devant de l'histoire comme Abraham au devant de Dieu. Le projet messianique et aussi métamessianique de Yerushalayim, Yerushalayim Abeluya. Message de M. André Neher de Jérusalem.
Et le maître lui a répondu, et tu dis, tu verras que tu n'as pas de tête pour avoir mal dedans. Alors j'espère que la gorge s'arrangera aussi. S'il nous restait beaucoup plus de temps, je prendrais le temps qu'il faut pour vous dire à quel point, à cette table, et pas seulement à cette table, nous avons été impressionnés par le rappel des événements que nous avons vécus depuis 25, un peu plus de temps, depuis la fin de la dernière guerre mondiale en France et en particulier à Paris. Je vais essayer, malgré la voix, le manque de voix, je vais vous dire que j'arrive d'un autre séminaire. Il ne se passait pas à Sarajevo, mais ça aurait pu être à côté. Et je vais essayer de dire d'abord que nous avons dû tout cela à un travail d'équipe. Et j'ai personnellement eu le privilège, en France, de participer au travail de quatre équipes. Que je vais citer dans l'ordre plus ou moins historique. C'était d'abord, et ensuite je parlerai de deux équipes avec qui je collabore en Israël. Depuis 15 ans que Bambi et moi-même nous avons vu notre allié. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer la présence dans cette salle ce soir avec nous du président de l'association de Mayanot qui se trouvait à Paris en même temps que nous, M. Tapiero et Mme Tapiero qui sont famille. Eh bien, l'équipe auquel j'ai participé en France, c'était d'abord l'équipe des éclaireurs et celle d'Orsay. Je crois qu'on ne peut pas citer les EIF et Orsay qui ont été déjà depuis la résistance, peut-être depuis avant, le laboratoire où s'est préparé la renaissance du judaïsme de France et à travers lui, comme cela a été cité, de beaucoup d'autres pays peut-être. Sans citer le nom de, en premier lieu, de Robert Gamzon, de Castor. Il a été non seulement le chef, mais l'âme de ce que nous connaissons comme étant l'équipe des éclaireurs. Et je crois que c'est là que nous avons d'abord appris le travail d'équipe. Si, dans la communauté en France, il a pu se faire un certain nombre de choses dont, selon nous parlons surtout ce soir avec Verge, c'est parce qu'il a existé des équipes, je ne trouve pas d'autres termes, d'hommes que leur passé et parfois aussi leur engagement aurait dû situer dans des antipodes, vraiment dans des directions très différentes de l'identité juive, tant pour l'option générale en tant qu'homme, que pour leur manière d'être insérés dans le tissu de l'histoire. Et pourtant, ces équipes ont su non seulement se constituer, mais travailler ensemble. Et déjà, à l'époque, nous appelions cela le pluralisme. Je sais qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour appeler, et historiquement, et idéologiquement aussi, ce qu'a représenté cette plus qu'aventure, cette folie, disons, en ce temps-là. Et nous étions jeunes, c'est ce qui nous a permis de l'être, de travailler dans des équipes de pluralisme. Aujourd'hui, lorsque nous voyons ça avec un peu de recul, nous nous rendons compte à quel point nous avons évité à cette communauté.